ce soir te rend de toute la gloire qui revient à toi et à toi seul. Nous voulons nous remettre à ta disposition afin que nous soyons de bons outils entre tes mains pour le travail que tu veux accomplir dans chacune de nos vies ce soir. Alors nous te disons merci pour ta sainte et ta douce présence au milieu de nous. Nous remettons le reste du déroulement de cette assemblée entre tes mains, sachant que c'est par notre volonté que nous voulons accomplir ce soir, mais nous sommes ici devant toi, selon le rendez-vous que tu nous as convié, pour que nous soyons touchés par ta douce présence. Merci encore, Seigneur. Merci, Lys. Alléluia. Amen. Alors, merci à vous tous qui êtes présents ici dans la salle. Et merci également à vous qui nous suivez depuis le confort de votre maison. Je pense que je n'ai pas encore fini de m'habituer avec la hauteur. Ce ne serait pas long. Bon, c'est déjà mieux. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles. Je vais vous demander également de vous tenir debout juste quelques instants. Nous avons une courte lecture à faire et par la suite, nous allons passer à notre méditation de ce soir. Donc, le livre que nous allons considérer ce soir, c'est l'Épître aux Romains, le chapitre 1er, et je vais lire pour vous les versets 15 à 17. Romains, chapitre 1er, versets 15 à 17. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je peux vous dire, ce soir, je me présente devant vous avec un cœur léger. Pourquoi un cœur léger? Parce que des fois, il y a des messages qu'on porte. Et si on sait qu'il y a un bout difficile, une exhortation où on va demander à l'assistance d'améliorer certaines choses, eh bien, on se sent un peu dans nos petits souliers parce qu'on ne veut pas léser nos frères non plus. Et on ne veut pas non plus se faire envoyer des tomates. Mais ce soir, soyez rassurés, je n'ai que de bonnes nouvelles. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire « Amen » ? Ce soir, j'ai de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un excellent passage. Ces quelques versets que je viens de lire pour vous est considéré comme un petit joyau, un bijou, un cadeau, un trésor de la part de notre Dieu. Mais pour cela, il faut comprendre et l'interpréter dans le bon sens. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire à travers ces versets. Pourquoi? Parce que malheureusement, on peut mal comprendre un passage et ce n'est pas faute d'instruction scolaire, ce n'est pas faute parce qu'on a, on n'a pas été scolarisé comme il faut. La preuve, c'est que le passage que je viens de lire, un des pères fondateurs qu'on a pour le mouvement protestantiste, Luther, l'avait mal compris. Mais lorsqu'il a reçu la révélation de Dieu, il a dit qu'il a trouvé la porte du paradis. Et c'est pour cela que je vous dis, le message aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui, c'est-à-dire l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Si on regarde dans le chapitre que j'ai considéré pour vous, l'apôtre a mentionné le mot à quelques reprises. D'abord, au verset 1er, il nous dit l'évangile dont il est question, cette bonne nouvelle, mais c'est l'évangile de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Ce n'est pas n'importe nouvelle qui vient de n'importe qui. C'est une bonne nouvelle, c'est l'évangile et c'est l'évangile de Dieu. Et dans les deux derniers versets que j'ai lus pour vous, il dit que cet évangile-là, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il a terminé par la suite pour dire, mais la justice de Dieu est révélée également sur une base de foi. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncée. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus est venu aussi proclamer. Et lorsque notre Seigneur est venu proclamer cet évangile, nous trouvons à la fois le message et le messager. Parce que l'évangile, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une religion. L'évangile, ce n'est pas un amalgame de rites, de rituels ou de dogmes. L'évangile, c'est une personne. C'est notre Seigneur. Et c'est pourquoi cela a été annoncé dès l'Ancien Testament. Et le message que Dieu a voulu pour nous, c'est un message qui est bon, qui est bon. C'est une bonne nouvelle. Je viens de vous dire que ça a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Et le texte dans l'Ancien Testament qu'on peut considérer qui est plus à propos de ce que je vous dis, c'est le passage qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 52, le verset 7. Passage que vous connaissez, passage également qui a fait un petit clin d'œil à notre pasteur Florent Giacomin lorsqu'il passait par l'épreuve que nous connaissons. Et le passage suit ainsi. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte les bonnes nouvelles, qui publie le salut. Qui publie le salut. Comme je l'ai dit tantôt, l'évangile, c'est une personne. C'est notre Seigneur. Et l'apôtre Paul nous dit, dans le texte qu'on vient de lire, qu'il n'a pas honte de l'évangile. Et cela, c'est également une bonne chose et c'est pour notre plus grand bénéfice. Parce qu'imaginez-vous, si l'apôtre Paul avait honte de l'évangile, combien d'assemblées chrétiennes ont été implantées par l'apôtre Paul? Plusieurs, beaucoup même. Et combien de livres qu'on voit dans notre Bible, qui ont été écrits par l'apôtre Paul? Beaucoup. Plus que la moitié du Nouveau Testament. Et il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte. Pourquoi il n'avait pas honte de proclamer l'Évangile? Parce que il y a une erreur que bien souvent nous faisons, que lui n'a pas fait. L'erreur que nous commettons, que lui n'a pas commis, c'est que souvent nous pensons pour proclamer l'évangile, il nous faut être parfait. Alors il ne faut pas attendre d'être parfait pour proclamer l'évangile. Parce que si tel est le cas, l'apôtre Paul pourrait rester sur sa vie passée et dire qu'il n'est pas digne de proclamer l'Évangile. Mais il avait compris une chose. Il avait compris que l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si l'Évangile est une puissance pour le salut, c'est que il sait qu'il était perdu. Il sait qu'il n'était pas parfait. Et c'est pour cela que nous aussi, on ne doit pas attendre à ce qu'on soit parfait pour proclamer l'Évangile. Il faut savoir que l'Évangile doit faire son travail en nous pour nous amener à la perfection, pour nous amener à ressembler à notre Seigneur. Et c'est ce que lui, il avait compris. Si on regarde également l'évangile de Luc, le chapitre 4, et là nous allons trouver le passage de notre Seigneur, lorsqu'il était dans le temple, on lui a demandé de partager un passage avec le peuple. Il a pris un texte du livre d'Ésaïe, qu'on trouve également dans Luc chapitre 4, les versets 18 à 21. Il disait, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et à la fin, il a dit, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Pourquoi? Parce que il était à la fois le messager et le message. Il savait tout ce qu'il venait de lire dans cette prophétie-là, eh bien, sa présence est là pour l'accomplir. L'Évangile est une puissance. Une puissance pour libérer. Si l'Évangile est une puissance pour libérer, c'est qu'il y a des personnes qui sont opprimées ou qui sont captives. L'Évangile est une puissance pour permettre le recouvrement de la vue. Si l'Évangile est une puissance pour permettre cela, c'est qu'il y a des aveugles. L'Évangile est également une puissance de guérison. Et s'il est une puissance de guérison, c'est qu'il y a des malades, c'est qu'il y a des cœurs brisés. L'Évangile est une puissance pour pardonner. Et si l'Évangile est une puissance pour pardonner, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de pardon. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'on a accès à tout cela? Que Dieu, dans son amour, avait prévu, avait planifié tout cela pour nous. Nous sommes bénéficiaires de tout cela. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire qui s'est passée une fois dans l'Ancien Testament et puis qui s'est arrêtée depuis. Mais je suis en train de vous dire, c'est ce qui a été planifié, c'est ce qui a été proclamé depuis l'Ancien Testament qui s'est accompli et on a accès à tout cela encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que, oui, j'ai le cœur léger, je suis dans la joie, je suis content parce que je vous annonce une bonne nouvelle. Si vous êtes malade, la guérison, elle est disponible. Vous avez le cœur brisé, la restauration, elle est disponible. Vous êtes aveugle, vous serez capable de voir. Vous êtes opprimé, mais la libération, elle est disponible. Tout cela est accessible par la foi. L'Évangile est une puissance pour donner le salut. L'apôtre dit que le juste vivra par la foi. Nous avons besoin de mettre notre foi à l'épreuve, d'expérimenter cela par la foi. D'où la phrase « Le juste vivra par la foi ». C'est quand même un peu particulier que la même personne qui écrit cela nous dit également dans le même livre, Romains, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors, si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, s'il n'y a pas de juste, on pourrait penser que mais ce n'est pas accessible à nous. Et c'est exactement ça l'erreur de Luther. Parce que malgré sa bonne disposition, Luther connaissait un peu les choses. Il savait que le péché était accolé à la peau de l'homme. Il savait que l'homme était injuste, que l'homme ne pouvait pas avoir accès à tout ce qui est promis ici. Mais regardez, quand Dieu lui a permis de bien comprendre, le juste vivra par la foi. Ce bout de phrase qui, pour l'apôtre Paul, a été quasiment sa théologie, parce que nous trouvons cela à la fois dans l'Épître aux Romains, mais nous trouvons également le même thème dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, le verset 11, et on retrouve également cela dans le livre d'Hébreux. On ne connaît pas encore l'auteur, mais tout porte à croire que c'est l'apôtre Paul, parce que la façon que ça a été écrit, on pense que probablement ce serait l'apôtre Paul qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux également. Mais on voit la même formulation. Le juste vivra par la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase-là ne vient pas d'apôtre Paul. Même si on retrouve le juste vivra par la foi à quelques reprises dans plusieurs livres du Nouveau Testament, mais c'est une prophétie de l'Ancien Testament. Apôtre Paul n'a fait que reprendre ce que Habacuc avait reçu de la part de Dieu. Nous trouvons exactement cette prophétie-là dans le livre d'Habacuc, le chapitre 2, le verset 4. Et le contexte où Habacuc avait trouvé ce message-là, c'est qu'Habacuc nous disait le peuple était opprimé par les Chaldéens. Nous connaissons les péripéties du peuple hébreu dans sa relation avec notre Seigneur. C'est que malheureusement, il y a des moments où le peuple commet des impairs, et pour la correction, le Seigneur permet à ce qu'un peuple étranger opprime son peuple. Et à ce moment-là, Habacuc disait dans le chapitre 2, « J'étais à mon poste parce que je voyais l'injustice. Je voyais comment le peuple est opprimé. Mais j'étais à mon poste, j'observais. J'attendais une réponse de la part de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu a à me dire de cette situation-là. Le peuple qui souffre. Et qu'est-ce que moi je vais répondre? Et ce que Habacuc a reçu de Dieu, c'est qu'il y a une prophétie qui s'en vient. Et si cette prophétie-là tarde à venir, attends-la. Parce que cette prophétie-là ne va pas manquer de se poindre au rendez-vous. Et cette prophétie, à votre avis, quelle était-elle? Le juste vivra par la foi. Donc, dans nos moments de difficulté, lorsqu'on est opprimé, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est aux abois, on est au désespoir, le message de Dieu pour nous, le juste vivra par la foi. Oui, on a parlé au début que l'apôtre Paul disait qu'il n'y a pas de juste, même pas un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une dichotomie? Est-ce qu'il y a quelque chose de contradictoire là-dedans? Non. Si on prend l'Ancien Testament, le mot qui traduit juste, c'est le mot hébreu tzadik, en espérant que je n'ai pas trop magané. Vous voyez que je ne suis pas hébreu, mais je vais vous épeler les lettres pour que vous puissiez à la maison aller faire des recherches si vous voulez. Donc, c'est le mot tzadik, T-S-A-D-D-I-Y-Q. On a jugé bon de prendre ce mot-là en hébreu parce qu'on voit, mais apôtre Paul n'a fait que répéter ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et si vous allez dans le Nouveau Testament, le mot grec que vous allez trouver, puisque le Nouveau Testament a été écrit essentiellement en grec, mais c'est le mot dikarios, D-I-K-A-I-O-S. Ces deux mots-là, en français, donne la signification juste, innocent, vrai, homme de bien. Mais en hébreu, lorsqu'on emploie le mot juste est employé pour décrire l'action de Dieu. Donc ici, notre texte, le juste vivra par la foi. L'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas tout centrer sur nous. Le juste vivra par la foi. La justice ici dont il est question, c'est l'action que Dieu a posée pour nous sauver. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cette justice-là, c'est qu'est-ce que Dieu a fait. Le passage qui nous permet de comprendre cela, c'est, on le retrouve dans le livre des psaumes, psaume 98. Et je vais lire pour vous. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La justice de Dieu ici, c'est ce que sa droite triomphante a fait. C'est ce que son bras fort a fait. Et c'est pour cela, il nous déclare juste en fonction de ce qu'il a fait pour nous. Lorsque nous trouvons dans la Bible, je crois que c'est dans Romains chapitre 8, le verset 31, si je m'excuse, quelqu'un pourra me corriger, qui accusera les élus de Dieu? Cette question-là qui a été posée, mais c'est parce que personne ne peut accuser la personne que Dieu dit d'elle est juste. Pourquoi? Parce que le juge, c'est Dieu. La rançon, c'est Dieu. La personne qui a tout accompli pour nous donner le statut de juste, c'est Dieu. Alors, qui pourra s'opposer à Dieu et déclarer injuste ce que Dieu a déclaré juste, tout en sachant que lui, il a payé le prix pour. Vous comprenez? Le juste vivra par la foi. Et cette justice-là, mais c'est la justice de Dieu en fonction de tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait pour nous déclarer juste. Amen. Donc, la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir peur. Quand on parle de la justice de Dieu, au contraire, on devrait se réjouir pour dire, il a tout fait pour nous. Il a tout fait pour nous. Sa droite triomphante, son bras fort, il l'a exercé pour nous donner le salut et le statut que nous avons. Mais tout cela, il faut agir avec foi. Il ne faut pas douter. Car la Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi il était possible de plaire à Dieu sans la foi? Parce que si on n'a pas la foi, c'est qu'on doute de Dieu. On ne lui fait pas confiance. On met en question ce qu'il dit de lui et ce qu'il dit qu'il a fait. Alors, s'il dit qu'il est notre libérateur, il est notre protecteur, il est notre guérisseur, c'est à nous d'exercer notre foi et de croire que l'héritage qu'il nous a donné, qu'il nous a légué, eh bien, nous possédons tout cela par la foi. Amen. Nous possédons tout cela par la foi. Autant d'Habacuc, comme je l'ai mentionné tantôt, oui, le peuple avait fauté. Oui, le peuple avait un ennemi qui l'opprimait. Et Habacuc a reçu ce message-là, le juste vivra par la foi. C'est au moyen de la foi, même si l'oppresseur est encore là, même si ça ne vous plaît pas, mais c'est en faisant confiance à Dieu, en agissant votre foi, de croire que Dieu est notre libérateur, qu'on va s'en sortir de l'oppression de l'envahisseur. Dans le livre de Jérémie, on trouve un passage qui est similaire. Je pense que c'est Jérémie chapitre 29. Je ne vais pas le lire, mais vous pouvez le lire à la maison. Mais je vais résumer l'histoire pour vous. Jérémie avait reçu la prophétie comme quoi le peuple devrait aller en captivité. Ce n'est pas une petite captivité. C'est une captivité qui a duré 70 ans. 70 ans de captivité. Alors que d'autres faux prophètes pensaient qu'il ne fallait pas s'établir, mais Jérémie a reçu un message de la part de Dieu pour dire au peuple, non, vous allez demeurer là-bas. Vous allez même vous marier là-bas. Vous allez vous implanter là-bas. Parce que ça va être long. Ça va durer 70 ans. Et pendant ces 70 ans-là, il fallait faire confiance à Dieu. 70 ans, c'est pas une semaine, c'est pas deux semaines. Mais c'est d'agir avec foi et de croire que Dieu va libérer son peuple. Et Dieu a libéré son peuple. Amen. Donc, à chaque fois que Dieu nous dit une chose, il faut la saisir. Il faut pas douter. Vivre par la foi, c'est vivre selon la bonté et la fidélité de Dieu. Notre Bible qu'on a, c'est une Bible en français, mais qui a été traduite d'une langue étrangère. Comme je l'ai mentionné tantôt, de l'hébreu pour l'Ancien Testament et du grec essentiellement pour le Nouveau Testament. J'aimerais attirer votre attention sur un verset qui se trouve dans le Nouveau Testament pour vous permettre de comprendre le fait de vivre par la foi. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme message? Romains chapitre 3, le verset 3. Je vais attirer votre attention sur un mot. Le texte dit, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantirait-elle la foi de Dieu? J'ai fait exprès, j'ai dit la foi de Dieu, mais dans votre Bible, vous n'avez pas la foi de Dieu. Vous avez la fidélité de Dieu. Dans la version originale, le mot qu'on voit, c'est le mot pistis en grec. Et le mot pistis donne exactement le mot foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon par la fidélité de Dieu. C'est de croire que Dieu est fidèle. C'est de croire que Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. L'erreur qu'on peut commettre, c'est de croire que vivre par la foi, c'est de vivre une journée à la fois et dans l'incertitude. Vivre par la foi, ce n'est pas de vivre dans l'incertitude. C'est d'accepter de calquer sa propre vie selon la fidélité de Dieu. C'est de connaître quel genre de Dieu qu'on a et de dire, on va vivre selon cette fidélité-là. Ce n'est pas de l'incertitude. Toutes les promesses de Dieu pour nous sont dans la Bible. Alors, ce n'est pas une incertitude. C'est de croire que si on a à passer par des épreuves, mais il dit qu'il sera avec nous. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça a été sa parole avant de monter. Je serai avec vous tous les jours. Et nous trouvons dans la Bible plusieurs exemples pour témoigner de la fidélité de Dieu. Daniel n'a pas été laissé tout seul dans la fosse aux lions. Sadrach, Meshach et Abednego n'ont pas été seuls dans la fournaise. Mais il les a accompagnés. Le roi a vu qu'il y avait une quatrième personne. La gueule du lion a été fermée par la présence de Dieu auprès de son serviteur. Il ne faut pas croire que Daniel était un gars de cycle qui a su comment charmer les lions. Non. Mais c'est la présence de Dieu dans la fosse au lion qui a fermé la gueule du lion. Et c'est ce que Daniel a déclaré au roi. Amen. Donc, oui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et l'invitation qu'il nous donne lorsqu'il nous dit de vivre par la foi, mais c'est de vivre selon sa fidélité. Et n'allez pas croire que c'est une marche à l'aveugle, une marche dans l'incertitude. Mais non, c'est une marche en choisissant fermement de saisir toutes les bénédictions, toutes les promesses de Dieu pour nous et de vivre à chaque jour avec. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans ma vie personnelle, je l'ai expérimenté. Dieu fait une progression avec moi. Dans mes moments des épreuves, Dieu me rappelle le passé pour faire en sorte que j'ai encore plus de confiance en lui. Il y a très peu de temps, je passais par un moment d'épreuve. Et j'avais confiance en Dieu. Je savais que tout devrait bien aller. Mais lorsqu'on est dans l'épreuve, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas avoir des moments de perturbation. Ces moments de perturbation-là, lorsqu'ils arrivent, c'est à nous d'aller chercher la présence de Dieu et de dire à notre âme, calme-toi. Dieu est fidèle. Dans un moment de perturbation, alors que je disais à mon âme, calme-toi, tout va bien aller, le Seigneur t'a fait du bien. Puis, j'ouvre ma Bible pour prier. Aussi bizarre que cela puisse paraître, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de circonstances disparates. Il y a un passage que je connaissais très bien. Un passage pour lequel même j'ai déjà partagé avec vous ici. Un passage qu'on trouve dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7. Puis, j'ouvre le chapitre, je commence à lire. Mais dans mon esprit, j'avais comme oublié la fin. Et c'est quand j'arrive, je me suis dit, tiens, merci Seigneur. Tu viens de me dire que tout va bien aller à nouveau. Et le texte me le disait, ne t'inquiète pas. Fais-toi-en pas pour ces personnes-là qui t'attaquent. Tout va bien aller. Je paraphrase le chapitre 7, mais Dieu ne me parlait pas. Dieu parlait à un ancien roi d'Israël. Je vous ai déjà partagé ce message-là. Mais je l'ai saisi pour moi-même. Je me suis dit, avec Dieu, il ne peut pas y avoir de coïncidence. J'avais deux accusations, deux persécuteurs. Et le texte, il y en avait
deux rois qui campaient contre Israël. Et Dieu disait, ça va bien aller, calme-toi. Mais Dieu a utilisé cette situation-là pour me dire, si tu avais oublié la fin de ce chapitre, mon fils, mais je vais te le rappeler. Je suis avec toi, ça va bien aller. Dieu ne manque jamais à l'appel. C'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de croire qu'il a tout fait pour nous déclarer justes. C'est à nous de croire que la foi qu'il nous demande d'exercer, mais cette foi-là, c'est sa fidélité. Et lui, il n'est pas un homme pour mentir. Et si on doute, c'est qu'on veut faire passer Dieu pour menteur. Et Dieu n'aime pas ça. Et la Bible nous dit, on ne pourra pas plaire à Dieu si on agit ainsi. On ne pourra pas plaire à Dieu. Alors ce soir, Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous annoncer une bonne nouvelle. Dieu veut nous faire comprendre que tout ne se repose pas sur nous-mêmes. Nous n'avons pas à avoir honte d'annoncer l'Évangile. Nous n'avons pas à attendre qu'on soit parfait pour le faire. Parce que c'est une bonne nouvelle, une source de salut. N'attendons pas demain. Si nous avons l'occasion aujourd'hui d'annoncer l'Évangile, nous devons le faire. Parce que l'Évangile est une source de salut. Lorsqu'on ne proclame pas le salut, mais la personne qui est perdue, comment pourra-t-elle être sauvée? Et c'est à nous également de croire que Dieu a tout fait pour nous déclarer justes. Et en nous déclarant justes, il nous invite à cheminer avec lui, à marcher avec lui par la foi. Et cette foi-là, c'est l'ensemble de sa fidélité. Ce n'est pas une marche à l'aveugle. C'est une marche avec un pas certain. Hébreux, le chapitre 11, nous dit quoi par rapport à la foi? Une espérance, une assurance. C'est une assurance. C'est une assurance, une certitude. Oui, on ne voit pas la chose, mais on sait qu'elle va venir. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. On a une assurance de la chose. La délivrance qu'on veut avoir, pas qu'on espère, parce que par la foi, si on est captif, Dieu dit qu'il est venu pour nous libérer, pour nous faire partir libre si on est opprimé. Si on a le cœur brisé, bien, il veut nous guérir. On a l'assurance qu'on est guéri. On a l'assurance qu'on est guéri. On a l'assurance, si notre cœur est brisé, qu'on est guéri. On a l'assurance, si on a péché, si on a fauté, que le pardon existe. C'est à nous d'aller saisir par la foi tout ce que Dieu a voulu nous donner par grâce dans sa bonté et dans sa fidélité. Amen. Alors, est-ce que je vous ai annoncé une bonne nouvelle? Est-ce que j'avais raison d'être content pour vous annoncer cette nouvelle? Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Je vous avoue, ça m'a fait un petit quelque chose. Quand j'ai reçu ce message-là, je me suis dit, OK, on va y aller. Mais je suis bien content de partager ce message-là avec vous. Parce que je sais que Dieu va faire de grandes choses. Je reconnais aussi que je ne suis pas un instrument parfait, mais je sais que le Saint-Esprit, lui, il est parfait. Le travail qui doit être opéré dans chacune de nos vies, ce n'est pas la personne devant vous qui va le faire, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors, je vous invite à saisir vraiment ce message. À saisir ce message. Dieu a tout fait pour nous. Et sa fidélité est encore accessible. Agissons par la foi. Amen. Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le message que tu nous donnes ce soir. Je remets ton Père entre tes mains. Puisses-tu, Seigneur, aller encore en profondeur avec ton peuple. Tu connais chaque cœur. Tu connais, Seigneur Dieu, là où chacun de nous, nous sommes rendus dans notre relation avec toi. Nous voulons une seule chose, Père. C'est d'être encore plus proche de toi. C'est encore, Seigneur, d'agir davantage notre foi et de te faire confiance, Seigneur, que toi, tu es à l'œuvre, que toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Merci pour tout ce don, pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu as accompli pour nous au bois de la croix. Nous voulons, Seigneur Dieu, le reconnaître et nous voulons te proclamer, être reconnaissant, Seigneur Dieu, envers toi, tant que nous vivons. Alors, nous te disons merci. Je remets ton peuple entre tes mains. De la même façon, Seigneur, que tu nous as accompagnés pour venir ici, puisse, Seigneur Dieu, nous accompagner sur le chemin de retour. Que ta paix, que ta grâce, Seigneur Dieu, soit sur chacun de nous, ici dans cette salle, et même sur ceux qui nous suivent à distance. Nous croyons, Seigneur Dieu, qu'il n'y a pas de limite. Tu es tout puissant pour accomplir tout ce que tu veux. Alors bénis ton peuple abondamment et pousse encore au plus profond de notre être le message que tu nous as donné ce soir. Pour ta gloire et ton honneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Alors je voulais juste vous rappeler nos rendez-vous de la semaine. Demain, c'est jeudi. Vous avez, bien sûr, rendez-vous avec notre bien-aimé pasteur Flora Jacomin pour la bénédiction matinale. Vendredi, vous allez avoir également, dans l'avant-midi, une autre séance de bénédiction matinale et par la suite, dans la soirée. Sachez également, si votre état de santé le permet, les vendredis, ce sont des journées que nous réservons comme des journées de jeûne et de prière. Donc, nous vous invitons également à prendre le temps pour participer dans le jeûne et la prière vendredi prochain. Merci, que le Seigneur vous bénisse.